hits the park every day. Far from the ice, close to my heart, as they say. You live inside a postcard, so far away. And I need more than a picture of Betty's Bay. I took a train and a plane, driving through the city.
Vous avez l'habitude qu'on vous parle musique, et ben on va carrément vous parler grande musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir, la matinale des antennes d'HDR et de Principe Actif. Ce matin, comme je vous le disais, grande musique, bah, ça va être à l'occasion du festival Le Sacre du Printemps, 9e édition. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir, bien entendu. On fera un petit tour du côté du répondeur, on fera un petit tour du côté de l'actualité dans le coin, des événements repérés. On retrouvera nos chroniqueurs qui sont Sceaux et Antoine, du bon son, de la bonne musique, de la bonne humeur. Enfin voilà, c'est comme d'habitude, la recette du pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDR.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute.
99.1 HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et pour animer cette matinale, nous recevons Bruno Botterf, membre du collectif Modus Modalis, Ludus Modalis, chef de chœur d'ailleurs, non? Comment on dit, Bruno?
J'ai plusieurs casquettes.
C'est toi le chef, quoi.
Voilà, c'est ça. Chef de chœur, oui, et puis également directeur artistique, on dirait plutôt qu'autre chose.
Directeur artistique, ouais. De Ludus Modalis. Ludus Modalis, c'est la structure qui porte le festival Le Sacre du Printemps. Ouais. On est à la 9e édition cette année. On va s'intéresser, comme je le disais en intro, à ce qu'on appelle la grande musique, la musique classique.
Au sens très large, puisqu'on va de la musique du Moyen Âge à la musique de notre temps, ce qui fait que c'est quand même 8 siècles de musique, c'est extrêmement large et ça se limite pas du coup à la période qu'on appelle celle de la grande musique, c'est celle de Mozart ou Beethoven, qui est plutôt la musique classique. Là, on est sur la musique au sens large, voilà, donc la plus variée, la plus diverse possible.
Alors on a une heure devant nous pour échanger autour de ce festival Le Sacre du Printemps. Puis quand on commence à parler musique classique avec toi, d'un seul coup il y a tout un champ qui s'ouvre. Je rappelle d'ailleurs que des gens peuvent encore retrouver les podcasts de Vous avez dit classique sur notre podcast, une émission que t'animais chez nous.
Tout à fait, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette émission de vulgarisation, de présentation, et en même temps assez pointue sur la musique classique, vous avez dit classique. Et ben, le festival, il ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que c'est mais aussi l'idée de ne pas se cantonner à un type de musique donnée, musique baroque, musique contemporaine, musique, mais plutôt de proposer à des gens des pistes et de leur permettre d'aller éventuellement laisser les oreilles traîner pour un autre projet. Et ce qui fait qu'il n'y a pas réellement de fil conducteur, il y a des couleurs. Et puis les plus variés possibles. C'est toujours cette idée qui me permet d'avancer d'année en année sur ce projet.
Il y a quand même quelque chose d'assez central, c'est oui. Bach. On y revient régulièrement. C'est quoi ? C'est un point de repère, Bach ?
Bon, pour tous les musiciens, je pense que y compris les musiciens de jazz ou de variété, ont tous un appétit pour cette musique-là, une reconnaissance pour le talent de ce compositeur. Tout le monde a joué un jour ou l'autre ou chanté une mélodie de Bach. Donc oui, c'est certainement l'espèce de mastodonte de l'histoire de la musique et c'est tout à fait justifié. Il se trouve qu'il a eu la chance, on a eu la chance de qu'il naisse selon un des deux calendriers en vigueur le 21 mars, qui correspond grosso modo au début du printemps, ce qui fait que notre festival inclut assez systématiquement une soirée, là cette année deux concerts Bach le même jour, voilà.
On aura l'occasion bien entendu d'y revenir durant cette matinale. Ça va, Sou, en fait, d'habitude, je te dis bonjour, et là, je t'ai même pas dit bonjour, excuse-moi.
Je sens que t'es parti direct et tout, que tu kiffes cet invité, et que t'es à fond, donc ça fait plaisir de te voir comme ça, parce que c'est vrai que compliqué ce matin.
Ça, t'as pas le droit de balancer à tout le monde, que j'ai le nez qui coule.
Non, c'est compliqué pour tout le monde ce matin, j'ai l'impression. Moi aussi, j'ai les yeux lourds.
Très bien.
Moi, ça va, je vous en prie.
Bon, ben voilà, il y en a un qui est en forme sur trois, c'est parfait.
Tout repose sur toi, Bruno, ce matin. Je propose qu'on parte avec un petit peu de groove, comme on aime bien le faire durant cette matinale.
Would you tell me? Shoes with Zion on.
Which Side You Want. Le groupe, c'est The Philharmonic.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Salut Principe Actif, salut les auditeurs, c'est Fred de Grimaud. Petit message important, c'est un appel à soutenir notre projet de livre qui s'intitule « Ukiyo et surimpressionnisme », qui met en valeur notre belle Normandie et le magnifique pays du Japon, dans le cadre du centenaire de la disparition de Claude Monet. Vous y trouverez des haïkus écrits par Rémi Brumand-Varly, des calligraphies de Engel Marie Sophie, ainsi que mes photographies en surimpression de la Normandie et du Japon. Il reste une dizaine de jours pour réserver votre livre imprimé en Normandie en édition limitée. Je rappelle que les dons sont défiscalisés, je vais y arriver, à hauteur de 66%. Donc le lien c'est www.ulule.com/ukiyo livre d'art tout attaché, ukiyo, U-K-I-Y-O. Merci d'avance, à très vite.
Bonjour Principe Actif. Dans quelques jours, c'est la 9e édition du Festival Un Sacre du Printemps, du 18 au 29 mars. Elle se déroule dans différents lieux à Évreux, comme la médiathèque, l'église Saint-Aurin, l'église Saint-Michel, le musée, le conservatoire. On vous offre 7 concerts, 7 beaux programmes. Je vous invite à vous tourner vers le site internet pour avoir plus de renseignements, unsacreduprintemps.fr. À bientôt.
Eh bien, merci pour vos messages. Je rappelle, vous pouvez nous en laisser autant que vous voulez au 02 32 62 57 32. Et justement, le sacre du printemps, eh bien, on en parle. Bruno Botterf, un sacre du printemps. C'est un voyage dans le temps que tu viens de nous proposer en ouverture. Peux-tu nous resituer dans le temps et dans le contexte ?
Alors, cette pièce était une fanfare écrite pour l'arrivée de Philippe le Bon à Bruges en 1430. Donc, elle s'appelle Tuba Gallicalis. Ça veut dire fanfare française. Et elle nous permettait d'entendre une formation qui sera l'invité du festival et qui clôra le festival le 29 mars, qui s'appelle Into the Winds, qui est un ensemble français, jeune ensemble français extrêmement talentueux, qui vient d'obtenir 2 diapasons d'or consécutifs, et qui là jouait donc de la musique du 15e siècle sur des instruments d'époque, à savoir une trompette qu'on a entendue au départ, trompette naturelle, sans piston, sans trou, un truc assez incroyable qui ne joue que les sons harmoniques, des doucennes, des buzines, qui sont des instruments qu'on appelle des hauts instruments. Il y avait à cette période-là, au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, une différenciation entre les instruments qui jouaient en plein air, type cela, et les instruments domestiques, comme les flûtes à bec, les viols, et les instruments d'extérieur qu'on appelait les hauts instruments, hauts et bas instruments. Voilà.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on sonorisait en fonction... Enfin, c'était l'instrument qui sonorisait. Exactement. Le truc, on n'avait pas d'amplification comme on a aujourd'hui.
Bien entendu.
Et du coup, il y avait un répertoire du coup, qui allait avec l'extérieur et un répertoire qui allait avec l'intérieur.
Exactement. Exactement. La musique faite à la maison n'était pas faite avec les mêmes instruments et la voix n'était pas traitée de la même manière non plus. Là, il s'agissait de musique instrumentale, mais on a déjà évoqué cette chose-là. Je pense qu'un chanteur ne chantait pas de la même manière quand il chantait autour, avec un luth et trois autres chanteurs que lorsqu'il chantait en plein air ou quand il chantait dans une très grande église. Il y avait vraiment des différenciations. Il y avait des voix lyriques et donc des chanteurs qui, et des instrumentistes appropriés à certains types de répertoires et certains lieux.
Quand on écoute de la musique du 15e siècle, est-ce qu'on écoute la même manière que entendaient ces personnes du 15e siècle, où il y a eu une modernisation de l'écoute, où on ne sait pas peut-être, parce qu'il y a cette histoire d'écriture de la musique, mais aussi d'interprétation.
Il y a une chose qu'on ne peut absolument pas jauger, c'est l'évolution de notre oreille, puisqu'on s'est habitué à une multitude de choses depuis le 15e siècle. Et on ne peut pas oublier ce que l'on a en nous. C'est-à-dire que je pense aux instruments beaucoup plus récents qui ont été inventés. Lorsqu'on entend cette trompette au départ, cette trompette naturelle, les sons qu'elle joue sont des sons harmoniques. C'est-à-dire que des quintes, des quartes, des tierces qui sonnent de façon extrêmement pure, extrêmement limpide. Notre clavier qu'on a adopté depuis le 19e siècle, le piano, puis ensuite les synthétiseurs, joue de manière beaucoup moins pure. C'est-à-dire que, ça c'est très technique, mais les intervalles sont un tout petit peu corrigés de façon à pouvoir aller dans tous les tons, de moduler en permanence. Cette musique-là ne module pas. Elle a un côté un peu hiératique, un peu massif, comme ça. C'est un dolmen, et on a quelque chose qui est fixe, et on ne bouge pas. Si on commence sur un ré, on terminera sur un ré, on n'ira pas vers le mi bémol et vers le fa dièse, qui n'existait pas, lui, dans ce cours. Donc c'est difficile, en fin de compte, de dire. Je pense qu'on est certainement très loin de la réalité. La seule réalité, la seule chose qui nous permette d'avancer, c'est l'historiographie et le fait d'avoir, de restituer des instruments les plus proches, en tout cas, du visuel, de ce que l'on a, ou des traces qui restent encore dans certains musées. À partir de là, je pense qu'on a une espèce d'objectivité instrumentale. Mais est-ce qu'on jouait comme ça? Est-ce qu'on soufflait comme ça? Est-ce qu'on vibrait un peu? Enfin, toutes c'est des choses dont on ne sait pas, malheureusement, tout.
Très bien, mais en tout cas, ça permet aussi de découvrir quand même... Non, mais ça reste quand même des compositions, des... Alors, pareil, ces compositions du 15e siècle, elles ont été écrites ou elles ont été transmises de génération en génération?
Alors, il y a de la musique populaire, il y a de la musique improvisée, il y a des fanfares qui sont pas notées, et puis il y a du répertoire. L'avantage, disons, avec la musique... c'est pour ça qu'elle s'appelle... classique, et c'est qu'il y a une... L'impression a existé. Assez vite, en fin de compte, il y a eu soit des manuscrits, soit des éditions. Dès le Xe siècle, on retrouve, et dans la musique vocale, et progressivement dans la musique instrumentale, des traces d'éditions. Et au XVIe siècle, on a en plus cette espèce d'essor, très important d'ailleurs, de l'édition officielle, avec des éditeurs comme Attaignant, par exemple, en France, ou Jacques Moderne, qui vont... publier des livres entiers de musique. Et à partir de là, donc on a vraiment une certitude sur la manière dont la musique pouvait se diffuser aussi. Les éditeurs ont une importance énorme en réalité.
Parce qu'en fait, cette musique fait partie aussi de l'histoire plus globale.
C'est ça.
Elle raconte des choses. Tu l'évoquais à travers cette fanfare qui annonçait l'arrivée d'un roi.
Exactement, de Philippe le Bon.
Ouais. Voilà, ça trace aussi une histoire. Enfin, la musique a toujours accompagné l'histoire.
Très souvent, et les musiciens classiques aiment beaucoup replacer leur musique dans un contexte historique. Plutôt que de faire des concerts, je dirais, arbitraires, comme ça, simplement avec une œuvre puis une autre œuvre. C'est toujours intéressant d'avoir une... Alors là, un fil conducteur peut-être, ou en tout cas une thématique. Et là, plusieurs concerts du festival ont cette idée, en tout cas, d'aller le plus loin possible dans un choix.
Justement, venons sur la programmation du festival, parce que, comme tu le disais, elle est diverse et variée, et en même temps, elle revient, elle fait un tour d'horizon, quand même, d'une certaine musique. Il y a des partenariats, et notamment avec une des particularités du festival, c'est qu'il joue dans plusieurs endroits. Ah oui, en fait, il n'est pas sur un seul endroit. Il occupe plusieurs lieux, la médiathèque, le musée des arts et d'archéologie d'Evreux, l'église Saint-Aurin, l'église de Saint-Michel, le conservatoire également. Ça fait quand même plusieurs lieux de diffusion de cette musique, quoi.
Oui. Et ça, c'est depuis le début, en fin de compte, on a cette idée d'être le plus proche possible de la ville d'Evreux, en réalité, avec pas un lieu unique, parce qu'en réalité, chaque lieu a ses qualités acoustiques aussi. Et la musique que l'on fait n'est pas amplifiée, n'est pas transformée par l'ordinateur, sauf volontaire, quand on le fait volontairement. C'est arrivé l'an passé, on avait eu un concert de musique persane avec un retraitement informatique, et ça, c'était un choix. Là, il se trouve que dans les concerts que nous faisons cette année, c'est en acoustique uniquement. Et donc, chaque lieu doit pouvoir correspondre aux musiciens qui s'y produisent et au développement maximal de la musique. Il y aura par exemple un concert de clavicorde à pédalier, on en parlera tout à l'heure, et qui se tiendra dans la salle du premier étage du musée d'Evreux, qui permettra aux 80 ou 100 personnes qui seront là d'être dans l'intimité d'un musicien, tel qu'il aurait pu être le cas dans l'intimité de sa maison à Leipzig ou à Mühlhausen. Et donc, lorsque l'effectif est supplémentaire et plus grand, je pense au concert Bach, par exemple, avec le chœur Ars Viva, ce sera dans l'église Saint-Aurin où on pourra accueillir beaucoup plus de monde. Donc, en fonction du répertoire, en fonction de la musique, on essaie de trouver le lieu le plus adapté.
Et puis, ça permet aussi de mixer, on va dire, les publics également, oui. Le fait de changer de lieu. Je propose qu'on commence avec la proposition dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse, enfin, en tout cas, ce partenariat avec le Salon du Livre Jeunesse, le samedi 18 mars, à la médiathèque.
Mercredi 18 mars.
Oh, j'ai dit quoi, samedi?
Samedi, mais ça va quand même. Hein, mais
bon, venez plutôt le mercredi, si c'est un 18
c'est
mars.
C'est préférable.
Voilà, à 20h, à la médiathèque Roland Plaisance.
Oui, alors ça, c'est un programme avec... donc, la médiathèque, ça fait au moins 4 ou 5 fois que nous venons. On organise régulièrement des concerts. Gilles Leblon est partenaire depuis le début. Et on a vraiment beaucoup de plaisir à... Et on trouve beaucoup de plaisir à chanter et à jouer dans ce lieu, ce grand hall, qui est une belle salle de concert, en réalité, pour notre répertoire, qui permet d'avoir un public suffisamment nombreux on ne parle pas de jauge de 400 à 100 musiciens, on est plutôt sur 100, 120 personnes, et c'est parfait, une belle acoustique. Et là, on accueille un musicien qui est déjà venu l'an passé, et qui s'appelle Benoît Toigo, qui est un flûtiste, qui nous a fait un programme récemment de musique, de flûte à bec, allant du Moyen-Âge jusqu'à la musique contemporaine. Et là, on sera sur de la musique baroque d'un parfait contemporain de Bach, puisqu'il est né comme Bach en 1685. Et c'est Georg Friedrich Händel. Et donc, sa musique pour flûte à bec et clavecin, musique de chambre, avec des pièces écrites spécifiquement pour ça, et puis des transcriptions qui sont faites par Benoît et par Gabriel Reich, qui est sa comparse claveciniste. Programme extrêmement varié. Alors, Händel était un contemporain de Bach, mais autant Bach est devenu très très célèbre après son vivant, ne s'est pas tellement produit pendant sa vie en dehors de son Allemagne natale, autant Händel, lui, a été européen par nature et a voyagé énormément, a écrit en italien, en anglais, en allemand, a voyagé en Angleterre, enfin, une multitude de choses, a touché le monde de l'opéra. Et ce qui fait que ce programme s'appelle Händel l'Européen, parce qu'il y a une espèce de diversité dans la musique. Donc ce sont vraiment deux compositeurs contemporains, mais absolument différents. Alors peut-être que pour le grand public, il n'y a pas une différence énorme, mais la réalité est tout de même celle-là. Et il faut savoir un peu aussi à chaque fois qui est le compositeur, quel était son auditoire, quelles étaient ses convictions. Voilà, donc Bach était profondément religieux, Händel un peu moins, beaucoup plus profane, et c'est pour ça qu'il est allé vers l'opéra, c'est pour ça qu'il est allé aussi vers l'oratorio, qu'il est allé vers un commerce beaucoup plus florissant que Bach.
Donc ça, ce sera mercredi 18 mars.
Mercredi 18, donc un programme très riche avec des transcriptions, avec des sonates pour clavecin et flûte, des pièces pour clavecin seul, voilà, et deux merveilleux musiciens qui réjouissent l'œil et l'oreille. C'est-à-dire que ce sont des gens extrêmement vivants qui interviennent, qui parleront de leur programme aussi. Donc voilà, moi je me réjouis de les accueillir à nouveau.
On arrive du coup sur le premier week-end du Sacre du Printemps, et tu parlais tout à l'heure du clavicorde. On va commencer par Bach Intime, tu le disais, le samedi 21, c'est l'anniversaire de Bach selon un des calendriers qui était en vigueur. Samedi 21 mars, au musée d'Evreux, au musée d'art et d'archéologie, à 16h, il y a Bach Intime, et c'est là où il y a le fameux clavicorde.
Alors, le clavicorde est un instrument qui peut être placé entre le piano et le clavecin. C'est pas la même chose, évidemment, c'est un clavier, comme les deux. Mais au lieu du système du clavecin, qui est un sautereau et une corde qui est pincée par un petit bec en plume d'oiseau, le piano qui est. La corde est heurtée par un marteau. Là, c'est un système de tangentes et de petites pièces métalliques. Qui va simplement taper la corde sans la heurter, et qui fait que c'est un contact beaucoup plus doux, beaucoup plus suave, beaucoup plus sensible, et qui permettait aux musiciens et de travailler le toucher, puisque ça amène à beaucoup de subtilité et de précision dans les doigtés, dans le travail du clavier, et aussi un avantage indéniable, ce qui était de pouvoir jouer sans déranger trop les voisins, puisque c'est un instrument qui n'est pas très sonore. Le clavicorde est plutôt un instrument vraiment de proximité, et permettait aux musiciens de travailler, je pense notamment aux organistes, qui, lorsqu'ils devaient aller à l'église, étaient en général accompagnés de leurs deux ou trois élèves, les bons ou les mauvais, les bons pour être proches de lui, de l'organiste et entendre ce qu'il faisait, les autres peut-être comme punition pour actionner les soufflets. C'est qu'il n'y avait pas d'électricité, et que lorsque l'on jouait un orgue de trois ou quatre claviers, il y avait autant de soufflets par clavier. Et ça veut dire qu'on ne se déplaçait pas à l'église comme ça. Et donc la musique, elle était faite ou à la maison, sur un clavecin avec un pédalier quelquefois, ou sur un clavicorde à pédalier. Et là, j'ai invité pour ce festival, cette édition, Jean-Luc Haut, qui est un organiste claveciniste, qui jouera sur ce clavicorde, qu'il a, je dirais, un peu bidouillé lui-même. C'est un instrument qui n'est pas en clavicorde à pédalier en tant que soi, mais qui est un agglomérat de deux claviers, voire trois claviers superposés, et d'un pédalier associé avec un système de cordage et de choses. Donc c'est quelque chose d'un peu artisanal, mais il y a aussi dans ce métier de musicien baroque ou de musicien ancien, toujours un peu ce travail un peu artisanal. Il y a les deux. La qualité, alors le résultat, on n'entend pas toutes ces choses-là, mais on a besoin de quelquefois de toucher dans la matière, parce que évidemment cet instrument n'existe pas en tant que tel et n'est pas édité à des milliers d'exemplaires. C'est donc Jean-Luc qui a conçu son instrument et qui va venir et qui va nous le préparer, et qui, donc c'est du clavicorde préparé.
Non, mais justement, c'est quand on joue sur des musiques anciennes, il faut l'instrument qui va avec. Alors, et forcément, ils sont beaucoup moins construits que les guitares électriques d'aujourd'hui, ou les pianos, ou les synthétiseurs, ou peu importe. Enfin, c'est toute une recherche également, les instruments.
Organologique, il faut chercher dans l'iconographie. Il y a beaucoup de choses. Il y a des traités qui permettent de savoir exactement quelles étaient les cotes et comment construire. Il y a des facteurs d'instruments. Il y a des facteurs de clavecin, des facteurs de clavicorde qui existent encore, mais...
Qui les fabriquent neufs aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Là, ce sont des instruments neufs. Hein. Parce que les instruments s'usent, hein, évidemment, le bois s'abîme au fil du temps, donc il faut reconstituer les choses. Mais c'est tout de même pour un public extrêmement réduit, malgré tout. Donc là, on aura vraiment cette primeur d'un instrument qui est assez original et un répertoire. Donc il jouera de la musique pour clavecin, des pièces pour orgue, des grandes pièces, je pense à la Passacaille pour orgue de Bach,